France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et si nous prenions prétexte du prix Nobel de littérature attribué récemment à l'écrivain norvégien Jon Foss pour découvrir ou redécouvrir son œuvre ? Peut-être certains d'entre vous en ont-ils vu des mises en scène par Claude Régis, par exemple. Peut-être d'autres ont-ils lu un roman. En 1995, Jon Foss dit à propos de ce qu'il appelle la voix de l'écriture « Très tôt, j'ai remarqué dans la littérature cette voix, qui était là, mais qui paradoxalement ne disait rien elle-même. Il montait une voix qui n'était pas orale, qui ne disait rien de précis, qui était là seulement, comme quelque chose que l'on pouvait entendre, comme une parole sans parole, et qui venait de loin. » Alors on écoute la voix de l'écriture de Jon Foss avec nos deux invités. Vers 15h50, chaque mercredi, Mathilde Wagman vient nous parler des livres à destination des lecteurs les plus jeunes. Aujourd'hui, on se demande où sont passés les méchants. Et en fin d'émission, vos trouvailles de lecture nourrissent le grand jeu des pages musicales, de sorte que nous nous quitterons comme chaque jour en chanson. Ouvrons les livres, bienvenue dans le Book Club. Bonjour Marianne Segol.
Bonjour.
Vous êtes traductrice, vous êtes dramaturge, vous êtes spécialiste de la littérature scandinave contemporaine, vous avez traduit plusieurs textes de Jon Foss et vous êtes notre invité pour ce book club spécial. Et bonjour à vous Sylvain Briens.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'université à la Sorbonne, vous êtes vous aussi spécialiste de la littérature scandinave moderne et contemporaine. Ici, tout commence d'habitude par un questionnaire de lecture. À défaut de pouvoir directement l'adresser à Jon Foss lui-même, vous allez vous faire la voix de ce qu'il est certainement un grand lecteur. Par exemple, dans cette édition des trois pièces aux éditions de l'Arche que j'évoquerai rapidement tout à l'heure, il cite Dante en exergue de cet ouvrage. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire quoi, de ses inspirations, de ses lectures en tant que telles? Et comment est-ce qu'on le qualifierait si on disait « Jon Foss est un lecteur comme ci, comme ça »
Alors, Jon Foss est formé à la littérature, il a un master de littérature, il est extrêmement cultivé, il connaît tous les classiques, et c'est un grand lecteur de philosophie. Il publie un certain nombre d'essais, notamment sur la phénoménologie. Donc il s'intéresse à Husserl, il s'intéresse à Wittgenstein, il s'intéresse à Heidegger. Donc en ce sens, c'est un grand lecteur. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces lectures transparaissent dans son œuvre, qu'elle soit romanesque ou théâtrale? Et là, c'est pas aussi évident. Et je propose d'être un peu prudent, de faire une lecture directe en disant c'est de la phénoménologie.
Qui serait trop un théâtre ou une littérature de la philosophie, quelque chose de l'abstraction? Pas tout à fait.
Voilà, de voir dans son écriture exclusivement une dimension phénoménologique, métaphysique, voire épistémologique. Alors, bien sûr, c'est une lecture qui pourrait être intéressante, mais je pense qu'il y a une forme d'émancipation dans son travail d'écriture par rapport à ses propres lectures.
Est-ce que c'est un premier temps, ces lectures de philosophie, ou est-ce qu'il est toujours aujourd'hui grand lecteur de théorie philosophique?
Alors, en termes de publication, ce qu'il a écrit sur ses philosophes, c'est quand même plutôt dans le passé. Et aujourd'hui, il a une écriture extrêmement prolifique, notamment au niveau du théâtre. Donc, j'ai un peu du mal à répondre comme ça, j'ai pas les preuves qu'il continue à lire de la philosophie.
Vous l'avez pas eu au téléphone il y a deux jours pour savoir ce qu'il avait sur sa table de chevet.
Peut-être que Marianne, elle a des sources plus directes. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est que en s'émancipant de ses propres lectures, en devenant lui-même auteur, il a fait un geste presque de bascule, c'est-à-dire qu'en fait, il a donné la place au lecteur, au lecteur de ses propres textes. Et je pense qu'avant tout, en fait, l'écriture de Jon Foss, c'est une écriture tournée, dédiée au lecteur, et qui demande au lecteur de s'émanciper, qui lui donne une place. Alors le lecteur, ça peut être le metteur en scène, ça peut être l'acteur, ou le lecteur le lecteur d'un roman. Et ce qui est tout à fait fascinant, c'est la grande liberté que Jon Foss donne à ses lecteurs.
Est-ce que ça veut dire, pour bien comprendre ce que vous dites, Sylvain Briens, que dans un premier temps, il écrit en tant que lecteur? C'est-à-dire vraiment en tant qu'il est d'abord un lecteur des textes théoriques qu'il commente?
Peut-être. Si vous me permettez, j'aimerais lire une petite citation à ce propos. Donc, il écrit dans une postface à la traduction norvégienne du journal de Wittgenstein. Vous voyez, c'est quand même assez spécialisé.
C'est super sérieux même.
Il écrit « Je pense que nous devrions être éternellement reconnaissants à Wittgenstein d'avoir construit un chalet vu sur le fjord et d'y avoir passé son temps dans la solitude à penser et à écrire, entouré par les montagnes éternelles. » Alors, la citation, elle est quand même surprenante, parce que ce qu'il retient de Wittgenstein, c'est pas une analyse, on pourrait dire, de son tractatus, hein, donc sa réflexion sur le langage. Assez facilement, on pourrait avoir la tentation de se dire, oui, le doute de Wittgenstein sur les limites du langage, on le retrouve dans son théâtre. Moi, je suis un peu plus prudent, c'est peut-être pas une équation aussi simple que ça. Mais par contre, ce qu'il nous dit, c'est ce que Wittgenstein a produit comme effet pour lui, en tant qu'écrivain norvégien, assis dans son chalet à regarder la montagne norvégienne. Donc c'est l'effet de la lecture qui intéresse Fosse. Et je crois qu'il essaye de transformer cet effet de la lecture en un effet dans son écriture pour le lecteur.
Passionnant. Et qui serait pour nous aussi de nouveau un chalet avec vue sur le fjord ?
Alors, peut-être, mais en même temps... ça voudrait dire qu'on localise.
Oui, est-ce qu'on va en parler tout à l'heure, pas trop le cas. Enfin, il y a une manière de défaire le décor.
Bah oui, parce que la maison, le bateau, ils sont quand même toujours précisés comme imaginaires dans ces textes. Donc les didascalies, par exemple, dans Je suis le vent, nous précisent que le bateau sur lequel se trouvent les deux personnages, c'est un bateau imaginaire. Donc de là à placer ce bateau au milieu d'un fjord norvégien, bah, ça, c'est la responsabilité du lecteur. C'est une projection qu'on peut faire si l'on veut. Mais c'est plutôt, à mon sens, plutôt qu'essayer de se dire « c'est en Norvège, ça se situe dans ce paysage-là », une proposition de réfléchir à ce qu'un environnement, naturel ou non, produit sur nous en termes de questionnement existentiel. Et c'est ce, je crois que Jon Fosse cherche en fait à produire des effets sur nous et nous laisse la liberté, en fait, de choisir, presque une responsabilité de lecteur, de construire l'histoire, d'essayer d'inventer un personnage, et en fait d'être nous-mêmes, hein, c'est une œuvre ouverte, d'être nous-mêmes auteurs, en quelque sorte, de ses propres œuvres.
Évidemment, on y reviendra quand on va s'intéresser au texte de Jon Fosse. Maintenant, moi, je vais dire Jon Fosse, parce que j'ai entendu qu'on disait Jon Fosse. Mais pour rester du côté de Jon Fosse en tant que lecteur, qu'est-ce que vous pourriez rajouter?
Alors, je voulais déjà rebondir sur ce que disait Sylvain. C'est vrai que, bon, alors, ses lectures, c'est vrai qu'il parle beaucoup de Beckett dans son théâtre, de Trakl, qui est vraiment un de ses auteurs dont il répète le nom incessamment et qui est vraiment, évidemment, Tarjei Assos, qui est un des grands auteurs norvégiens qui écrit aussi en unoshk. Je crois qu'il faut aussi parler de la langue. C'est un auteur qui, évidemment, est devenu universel, puisqu'il est traduit est monté dans, je crois que c'est l'auteur le plus monté au monde actuellement. Mais il y a un caractère très local dans son écriture. Il est dit lui-même, en fait, qu'il écrit dans cette langue régionale, dans ce nunoshk, qui est quand même parlé par 10% de la population en Norvège. Et ça, je veux bien qu'on en parle un petit peu parce que c'est très important dans la manière dont il parle de cette langue minoritaire, de ses écrivains en marge, de ses personnages aussi en marge. On est à la périphérie d'un monde non centralisé chez lui. Et ce paysage du Nord est le paysage qui amène son écriture, en fait, à se développer comme elle le fait là, quoi. Donc, c'est vrai que les paysages du Nord deviennent universels, mais c'est par le biais de l'intime, par le biais du local, du régional. Et notamment cette langue qui est...
Et donc, il la lit, en dehors de l'écrire, et c'est aussi une langue qu'il lit. Quand vous dites il lit d'autres auteurs qui écrivent dans cette langue-là, ça fait partie des lectures qui le nourrissent ?
Ça fait partie des lectures qui le nourrissent, et il le dit aussi qu'il ne le lit pas dans les traductions, mais dans les langues originales. Non, et pour parler de cette langue que lui écrit, qui est une langue... en fait, la Norvège a été colonisée pas très longtemps par le Danemark, et a perdu sa propre langue, et est devenue en fait une sorte de langue du dano-norvégien, qui s'est norvégianisée avec les, évidemment, progressivement, qu'on appelle le bokmål, qui est parlé par 90% de la population en Norvège maintenant, mais au début du 19e siècle, il y a un linguiste qui s'appelait Ivar Aarsson, qui a parcouru les campagnes en Norvège et qui a décidé en fait de récolter les dialectes, enfin le vocabulaire, les expressions, la grammaire qui venait des dialectes, parce que c'est un pays où il y a énormément de dialectes, et qui en a créé en fait un dictionnaire et une sorte de livre de grammaire en fait qui s'appelait le parler populaire norvégien, et c'est cette langue-là qui est devenue le nunoshk, que parle aujourd'hui, que parle pas, parce qu'on peut pas le parler, c'est une langue artificielle qui est écrite. Ben, c'est-à-dire que c'est pas une langue qui est parlée, c'est une langue qui est, on parle un dialecte se rapprochant de ce nunoshk, en fait. C'est devenu, donc on l'écrit, mais on le parle pas. Et c'est une langue dont on dit qu'elle élève la pensée, parce que c'est une langue qui a pas de sociolecte. C'est une langue qui a une sorte de pouvoir de d'interprétation multiple, et des grands auteurs comme ce que j'évoquais là tout à l'heure, Terje Vyssos, qui est un des auteurs qu'a beaucoup lu, évidemment, que connaît par cœur Jon Fosse, sont des auteurs qui écrivent dans cette langue-là et qui sont les langues de la minorité, en fait. Donc c'est politique aussi d'écrire dans cette langue-là.
Alors on va passer de Jon Fosse lecteur à vous, lecteur et lectrice de Jon Fosse. Par quelle œuvre, par quel texte vous entrez dans son œuvre, Sylvain Briance?
Alors la première œuvre qui me fait entrer dans l'œuvre de Fosse, c'est cette pièce de théâtre « Egervinden, je suis le vent ». De 2005. Alors, moi, je la lis et je dois vous avouer que je n'y comprends rien.
Et vous la lisez au moment de sa traduction en français ?
Alors, non, je la lis quand elle est publiée, lorsqu'elle sort en Norvège. Donc, je n'ai, à ma première lecture, rien compris. Alors, pas au néo-norvégien, mais parce que c'est une langue très très simple, en fait. On n'a pas besoin de beaucoup de mots, de connaître beaucoup de mots en néo-norvégien pour la lire. Donc c'est une chance pour tous les locuteurs des langues scandinaves. On peut lire Jon Fosse dans le texte, et le livre m'a laissé perplexe. Et j'ai eu la chance de voir une mise en scène au théâtre de la ville de Stockholm en 2011, d'Ole Anders Tandberg. Et là, c'est comme un monde qui s'ouvrait. C'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup, la pièce faisait sens. Et il y avait une poésie de cette langue que je n'avais pas, moi, su lire. Donc j'avoue mes limites de lecteur de Fosse, en tout cas à ce moment-là, et ma fascination pour les possibilités infinies laissées aux metteurs en scène et aux acteurs de créer leur propre texte à partir de celui de Jon Fosse.
Donc ce qui vous a attrapé, c'est presque le passage par la mise en espace. C'est ça qui vous a fait vous rapprocher de l'œuvre de Jon Fosse.
Tout à fait. Je pense que c'est, pour ce qui est du théâtre, en tout cas à ce moment-là, j'étais pas encore rentré dans l'œuvre romanesque. Je pense que c'est un théâtre qui, on l'appelle un théâtre de la performance. C'est vraiment un théâtre qui est écrit pour être mis en scène, pour être sur scène.
Moi, j'adore le lire.
Oui, moi, je suis pas complètement...
Ça, c'est ma première lecture. Oui, c'est ma première lecture. Après, on peut aussi le lire, mais alors à ce moment-là, peut-être pas comme une pièce de théâtre, mais comme un poème.
Comme un poème, je suis complètement d'accord.
Et là, on entre dans une autre dimension.
Et vous avez poursuivi, ça vous a suffisamment attrapé pour avoir envie de le lire beaucoup ensuite ?
Alors, ça m'a donné envie de découvrir la dimension romanesque de sa production. Et qui est tout à fait fascinante. Et là, alors peut-être que moi j'y suis plus sensible, si je peux. Alors je dis pas au théâtre de Jon Fosse en tant que tel, mais en tant que lecteur de son œuvre, parce que dans son écriture romanesque, l'absence de ponctuation, l'absence une certaine liberté de la syntaxe, crée une sorte d'hypnose. Moi, je suis un lecteur hypnotisé par le texte de par les textes de Jon Fosse, on rentre dans un autre rythme, dans quelque chose finalement, je dirais, de très musical. Comme on écoute une symphonie, on peut rentrer dans les romans de Jon Fosse et se laisser porter, sans forcément chercher à comprendre, mais en étant un lecteur qui ressent dans l'émotion.
Par quelle œuvre vous êtes entrée, Marianne Segol, dans l'œuvre de Jon Fosse?
C'est un peu flou pour moi parce que je crois que j'ai quasiment simultanément vu en fait Quelqu'un va venir au théâtre, donc je l'ai...
Qui est le titre d'une de ses pièces.
Voilà, et qui a été une mise en scène donc vraiment importante, en tout cas pour Jon Fosse et mise en scène de Claude Régis. Moi, le théâtre, c'est vrai que je lis beaucoup de théâtre et que quand j'ai découvert ce texte, moi j'étais déjà très très sensible aux écritures minimalistes scandinaves. Bon, c'est aussi mes pays, quoi. Mais cette langue très condensée, ce sous-texte extrêmement important, c'est-à-dire que ce qui s'écrit, enfin ce qui se dit n'est pas finalement, c'est cette parole silencieuse qui est, j'ai eu une grande émotion de lectrice en tout cas pour cette pièce là, mais c'est vrai qu'en même temps j'ai aussi vu quelque chose d'assez incroyable sur le plateau. Qui était très singulier parce que je savais pas très bien pourquoi j'aimais, et il y avait quelque chose de comme si il y a quelque chose qui devenait tangible, mais je savais pas bien quoi en fait.
C'était ça très beau et très intéressant que l'un et l'autre vous soyez en fait arrivés à l'œuvre de Jon Fosse par le plateau de théâtre en fait, ouais. Par la mise en espace, dans la mesure où, et on va en discuter dans un petit instant, la question de l'espace dans son écriture est si fondamentale. Et ben on va continuer de parler de Jon Fosse qui vient d'obtenir ce prix Nobel de littérature juste après ce disque. C'est un disque de Sinikka Langeland qui est sorti en septembre 2023 et où Jon Fosse est parolier de toutes les chansons.
Jeg kan legge fram og si at dette meg. Den kjærleik jeg inne i forvandler mitt hjerte og legger det fram som noe du kan ta på eller la bli liggende svart. Hva du ser på og vender deg mot det som ikke
j'ai découvert Jon Fosse pendant mes études en art du spectacle. On avait une liste d'auteurs contemporains à découvrir et j'avais choisi au hasard Jon Fosse. Et j'avais été totalement happée par ses pièces de théâtre et son texte très brut. Et vraiment, j'ai le souvenir de lire ces pièces et d'avoir vraiment la sensation que le temps s'arrêtait.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Merci à notre auditrice Camille qui témoigne de sa lecture de Yon Fosse à qui nous consacrons ce Book Club. Ça passe, la peur se dissipe. Alors n'ayez pas peur, la peur s'en va. N'ayez pas peur, rassurez-vous. N'ayez pas peur, il fait bon ici. N'est-ce pas ce que vous ressentez aussi ? Nous sommes bien ici, nous sommes à notre place, nous sommes dans notre bonheur, nous sommes libres, nous ne sommes nulle part. Hier, en préparant ce book club consacré à l'écrivain norvégien Jon Fosse, tout récemment lauréat du prix Nobel de littérature, je suis tombée sur cette courte pièce qui s'appelle « Dors, mon petit enfant », publiée dans une traduction de Thérèse Inding aux éditions de l'Arche. C'est une pièce dialoguée avec trois personnages sans nom, écrite en 2000, publiée en 2000 en tout cas, fascinante, énigmatique. Il est question d'amour, il est question d'apparition, il est question de se tenir, de vivre, ou en tout cas d'essayer. Il est question des enfants et d'une présence-absence mystérieuse qui fait vibrer l'espace-temps lui-même tout à fait indéterminé. Cette présence, elle est décrite comme ça. « Ça ressemble tellement à mes enfants », dit le personnage 1. « Ça ressemble tellement à ce que j'ai toujours aimé, celle qui est l'amour. » C'est à elle que ça ressemble, dit le personnage 2. Alors voilà, c'est vraiment un conseil de non-initié, mais si vous devez commencer à lire l'œuvre de Jon Fosse, je vous dirais, moi, de commencer par là, de commencer par cette courte pièce « Dors, mon enfant ». Mais place à des conseils d'initié, avec vous, Sylvain Briens, et avec vous, Marianne Segol. On va en passer par une petite note biographique de Jon Fosse. On a commencé par parler de lui en tant qu'il est un grand lecteur de théorie, de philosophie, d'auteurs très locaux, mais aussi de Samuel Beckett par exemple. Mais qui est-il? Où est-ce qu'il naît? Où est-ce qu'il grandit? Qu'est-ce qu'on peut raconter de sa vie, Sylvain Briens?
Alors en un mot, donc, il naît en 1959 sur la côte ouest norvégienne. Et ça c'est, je crois, très important.
Pourquoi?
Alors parce que c'est un certain paysage. Et parce que ça va lui donner une relation particulière donc, à la langue. Enfin, un dialecte qu'il va, lui, transformer en une langue d'écriture, le néo-norvégien, comme Marianne l'a évoqué tout à l'heure. Donc, a priori, on a un ancrage dans un paysage culturel extrêmement fort et reconnaissable. Il commence son intérêt pour la littérature le pousse à entreprendre des études de littérature.
Il est dans une famille déjà littéraire qui a un rapport au livre, au théâtre ou pas du tout?
Alors, je ne crois pas, mais j'ai pas de notice. En fait, Jon Fosse se met très peu en avant dans la biographie de Jon Fosse selon lui, est pas très intéressante par rapport à son œuvre. Il y a une sorte de détachement entre l'auteur et l'œuvre. Et c'est vrai que cette question-là, en fait, de Jon Fosse, la vie de Jon Fosse...
Biographique, ouais.
Finalement, moi, je l'étais assez peu posé. On est assez peu amené à s'intéresser, alors que d'autres écrivains, je sais pas, par exemple, en Suède, son équivalent, Lars Norén, il s'est mis en scène... en tant que personnage public, il a publié ses mémoires. Enfin, il y avait vraiment une importance des liens entre... en tout cas, il recherchait, Lars Norén, un lien entre son œuvre et
sa vie.
Et sa vie. Pour Jon Fosse, en fait, son œuvre ne nous invite pas tellement à s'y intéresser, puisque, on l'a dit, les personnages, ils n'ont pas d'histoire, ils n'ont souvent même pas de nom. Donc... il n'invite pas tellement à revendiquer une généalogie, une filiation. Il se tourne vers l'écriture, donc après ses études de littérature, et il commence, en fait, à ce moment-là, pendant une dizaine d'années, il ne s'intéresse pas du tout au théâtre. Et d'ailleurs, il va revendiquer une sorte de dédain, de peu d'intérêt pour le théâtre, et en tout cas, de peu d'intérêt pour la manière dont les œuvres sont mises en scène pour ce qui se passe sur la scène norvégienne à cette époque. Donc, il commence son travail d'écrivain par la rédaction de romans, de poèmes et aussi d'essais. Donc, il y a vraiment une partie importante de son œuvre, au début de son œuvre, qui est théorique. On peut mentionner sa septologie, toute une suite romanesque qui commence par L'autre nom, qui est disponible en français. et puis Mélancolia. Et c'est donc dans un deuxième temps qu'il se tourne vers le théâtre avec une certaine distance, et surtout avec une distance par rapport au grand maître du théâtre norvégien qui est Ibsen.
On est dans quelle année à peu près à ce moment-là?
96 à peu près, en tout cas le théâtre ça commence dans ces années-là je crois chez lui.
Donc, pourquoi est-ce qu'il exprime une grande distance à l'égard d'Ibsen, et ou en quels termes?
Alors tout à l'heure, l'exemple que vous avez pris est tout à fait révélateur et donne l'illustration. En fait, il
explique... Dors mon petit enfant.
Oui, tout à fait. En fait, il explique dans une interview, parce que tout le monde lui pose la question. Évidemment, hein, il ne peut exister que par rapport à Ibsen, et il explique que la haine chez Ibsen est très intéressante. Il admire en fait Ibsen en tant qu'écrivain de la haine, mais il dit que il n'aime pas le théâtre d'Ibsen parce qu'il manque l'amour. Alors ça peut paraître un peu surprenant comme déclaration. Et il va prendre comme contrepoint dans cette interview l'autre grande figure du théâtre scandinave qui est August Strindberg, le Suédois. En plus avec ce jeu de haine entre Strindberg et Ibsen, hein, qui se détestaient, qui se répondaient par pièces interposées. Et lui va en quelque sorte prendre position dans la controverse. Il va dire... Je préfère Strindberg parce que dans le théâtre de Strindberg, il y a de la haine, mais il y a aussi de l'amour. Et donc, il donne une sorte de clé peut-être de lecture pour son théâtre. Et c'est pour ça que l'exemple que vous aviez choisi...
Mais parce que ça m'a tellement ému de lire ça hier. J'ai trouvé ça étrange. Je ne savais pas s'il fallait être juste bouleversé et que cette fameuse présence, absence mystérieuse, c'était l'amour ou au contraire, c'était très, très, très inquiétant. Et s'il était beaucoup question de la mort, de la disparition, de l'incapacité des êtres à vivre. Mais il y avait comme ça un espèce de cœur, en tout cas lié à notre capacité ou incapacité à aimer. J'avais l'impression que c'était la grande question de Dors mon petit enfant.
Oui, tout à fait. Et je pense en fait que c'est c'est une œuvre qui est, enfin, qui croit en l'amour. C'est pas l'amour où on est sceptique, on détruit quelque chose. Il n'y a pas d'ironie, il n'y a pas de scepticisme. Au contraire, c'est une sorte de grand appel. On peut être sauvé par l'amour, ce qui est tout à fait, ce qui crée une émotion tout à fait particulière. Il va cesser d'écrire pour le théâtre pendant 15 ans et il reprend sa plume. Et aujourd'hui, il est de nouveau écrivain de théâtre. Et je crois que Marianne connaît bien cette deuxième partie de sa production dramatique.
Et est-ce qu'on peut dire, Marianne Segal, que cette question de l'amour, elle est là quasiment de manière mystique dans son théâtre et dans sa littérature ?
Oui, je crois qu'on peut dire ça de manière spirituelle. C'est ce qu'il dit, lui. En fait, ce qui ne peut être dit... le plus important ne peut être exprimé en fait. Et dans son écriture, il dit que quand on voit par exemple même sur une page comment est écrit son théâtre, on a déjà beaucoup de place pour, on a très peu de mots, on a beaucoup de place pour le silence et on a surtout le texte est scandé par un silence bref, un silence long.
Des didascalies, il faut dire. Hein.
Voilà, enfin une didascalie. Alors il y a très très peu de didascalie, dire, ouais. Hein, parce qu'on a vraiment très très peu d'informations. Mais lui dit que ces silences ou ces pauses, en tout cas, sont en fait les mots les plus importants, et qu'en fait ce qui le plus important dans ce qui se dit, enfin dans son théâtre, c'est ce qui ne se dit pas, mais ce qui s'exprime à travers le silence. Et il y a quelque chose de très beau un mot qui n'existe pas en français, qui existe en néo-norvégien, dans nunoshk, hein, c'est néo-norvégien, c'est le tugn, qui est en fait le silence actif. Et ça, c'est ce rapport.
Tugne, c'est une façon de dire un silence qui ferait quelque chose.
Qui serait rempli de quelque chose. Voilà, le silence actif. Et ça, je trouve ça très, très beau. Moi, ça me donne des frissons. Parce que c'est et tout son théâtre. Et ça, c'est tout ce qui se passe dans ces silences, entre ces mots, entre ces êtres qui sont dans ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui est dans une inquiétude, mais en une capacité mais démesurée d'aimer. Donc on est à la fois dans un théâtre de l'inquiétude, du doute, de la remise en question, mais inquiétude veut aussi dire, voilà, rien n'est jamais certain. Donc si rien n'est jamais certain, tout est toujours possible.
Oui, et le sens non plus. Il y a une très grande suspension du sens, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais complètement, de manière définitive, rien n'est complètement fermé dans ce qu'on est en train de lire, dans ce qu'on est en train de traverser. Alors, Sylvain Brien se laissait entendre que vous connaissiez bien cette deuxième période, son retour au théâtre. Ça ressemble à quoi? C'est à partir de quand et c'est quel texte, Marianne Segal?
Alors, il a arrêté d'écrire donc pendant 15 ans parce que je crois qu'il était trop sollicité et que ça a été très compliqué pour lui, en fait, cette reconnaissance pendant toutes ces années où il a été beaucoup monté, il a beaucoup voyagé. Ça a été des expériences difficiles parfois, très belles d'autres fois, mais c'est quelque chose qui physiquement était difficile et émotionnellement. Donc il a complètement arrêté d'écrire. Et puis il y a à peu près 5-6 ans, il a recommencé, donc ce qui était voilà, par une pièce qui s'appelle Vent fort, qui est une très belle pièce, enfin qui parle d'un personnage qui se trouve devant une fenêtre à un étage élevé d'un immeuble, sans doute, donc avec très très peu d'éléments, mais on est toujours donc chez Jan Fosse avec ses personnages. En fait, moi j'appellerais pas ça des personnages, mais plutôt des figures, parce que on sait absolument rien d'eux, et on ne connaît en fait la relation qu'ils entretiennent les uns avec les autres que par ce qui se dit, jamais rien d'autre, et puis par ces silences, parce que c'est dans ces moments de tension extrême que la communication se fait. Parce qu'il dit aussi que, par exemple, chez Pinter, on a souvent dit que les personnages, son théâtre mettait en avant l'incommunicabilité des personnages, et Pinter disait non, c'est justement l'inverse, les personnages se comprennent trop bien, et lui reprend ça dans son théâtre, c'est-à-dire que c'est par ces silences, ces tognes, ces silences actifs et ce qui ne peut être dit parce que c'est trop grand, ce qui ne peut être exprimé parce que les mots ne suffisent pas, en fait,
que la langue est
chargée et tout ça. Donc c'est avec cette pièce Vent fort, et puis depuis donc 5-6 ans, il a écrit je sais pas une dizaine de pièces, quoi. Il est de nouveau très
on
très
en donne quelques titres, par exemple.
Bah donc Vent fort étant le premier. Oh là là, j'ai plus en tête. Non, je vais y réfléchir, mais enfin des pièces qu'en plus j'ai traduites. Donc Jeune fille sur un canapé. Mais non, parce que c'est une ancienne, en fait, celle-là. Bon, donc il y a vraiment, mais c'est de plus en plus spirituel. En tout cas, on est vraiment dans un rapport pas à l'abstraction, mais à la spiritualité.
On parlait de son œuvre romanesque, une œuvre que vous avez lue, Sylvain Brien. On va écouter, on va plonger dans Mélancolia grâce à la voix du comédien Stanislas Roquette.
Les vêtements noirs et blancs et la robe noire et moulante de Madame Winkelmann, la collerette de dentelle blanche, ses cheveux châtains foncés, parfois presque noirs comme les miens, et puis sa bouche qui s'ouvre en un sourire, et son sourire est un grand trou noir, humide. Son sourire est un trou marécageux, un lourd marécage qui me retient le pied, qui m'empêche de le soulever. Je suis là avec un pied qui s'enfonce dans le marécage. Au-dessus de moi volent les mouettes. Et là-bas, au bout du marécage, il y a la baie et la mer toujours remontées, les vagues qui frappent la grève, les galets, le sable et les rochers noirs, et mon pied qui est pris dans l'eau froide du marécage, l'humidité qui remonte jusqu'en haut de mon pantalon. Je tire sur ma jambe, je me penche en avant et je tire, et ça fait un bruit de succion, et mon pied est libre et je fais un pas en avant, j'allonge la jambe autant que je peux, mais mon autre pied aussi est pris dans le marécage, et je dois avancer autant que je peux, et puis mon pied s'enfonce un peu plus dans le marécage, et je dois tirer sur mon autre jambe pour la sortir du marécage, la tirer vers moi, puis avancer jusqu'au tertre. Là-bas, il y a un tertre. Puis sortir du marécage et parvenir jusqu'à la lisière de la forêt, jusqu'aux arbustes du genévrier, parvenir jusqu'à l'endroit où est la lumière. Sortir mon pied du marécage comme une bouche ouverte au-dessus du tissu noir de la robe, il y a une bouche ouverte, puis avancer doucement et avec précaution jusqu'à l'endroit où la lumière se répand sur l'eau, jaune et blanche en dessous, jusqu'à la lumière, jusque là-bas où la lumière est blanche, jaune, puis blanche en dessous, et puis là-haut, jusqu'au nuage, là-haut, dans les airs, là-haut, jusqu'aux nuages, là-haut, dans les airs, les bleus, les blancs, les évanescents nuages, blancs et bleus, là-haut, dans les nuages, blancs et bleus, là-haut, là, avancer, se dégager, avancer, se dégager, avancer, sortir le pied de la vase, de la terre humide, du marécage, et puis avancer, se tendre en avant, silencieux, silencieux comme une fenêtre ouverte, peinte en blanc, en avant vers une fenêtre peinte en blanc, se tendre en avant, le pied dégagé de la vase, de l'eau et de l'humidité, puis en avant, jusqu'à la mer, jusqu'aux vagues qui frappent la vase, se tendre en avant, fuir ce monde, jusqu'aux couleurs changeantes des nuages, jusqu'aux vieux souvenirs, rejoindre et fuir la bouche ouverte de Madame Winkelmann, ses lèvres ni minces ni charnues, les lèvres de Madame Winkelmann, ses lèvres s'arrondissent en une ouverture qui dit là, dans le couloir, là, derrière la porte, c'est là que tu vas habiter, c'est ta chambre, c'est là que tu dois habiter, là, dedans, là, derrière la porte, c'est là, le lit est là, et la table de chevet et le meuble de toilette, et puisque je fume, interdit de fumer au lit, c'est interdit puisque je fume et que je dois quand même habiter dans leur appartement, interdit de fumer au lit, et c'est chez Madame Winkelmann, deuxième étage.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Cet enregistrement date d'il y a une dizaine d'années, je m'en souviens parfaitement. C'est Stanislas Roquette qui l'avait choisi. On faisait un exercice de déballage de bibliothèque à l'époque. Et je me souviens vraiment de la transe, l'extrait est coupé, hein, ça dure encore un moment, de la transe du marécage presque qu'on voit se former tandis que la voix lit le texte. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez comme ça un lecteur ivre, même acceptant de ne pas tout comprendre, Sylvain Briens. Comment on peut parler désormais, on a un peu évoqué son œuvre théâtrale à Jon Fosse, qu'est-ce qu'on peut dire de son art romanesque dont on vient d'entendre un extrait ici avec Mélancolien?
Alors, je crois qu'on a tous fait l'expérience en écoutant cet extrait. C'est un art déroutant, hein, pour le lecteur. L'absence de ponctuation, la suspension du temps et de l'espace. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans un sorte d'instant qui n'a pas de passé, qui n'a pas de... Enfin, qui a un avenir.
Il y a un retour tout le temps perpétuel. J'ai l'impression que les choses, elles reviennent comme un ressac presque.
Alors, il y a une répétition. Il y a une répétition presque infinie de certains motifs. Donc, on avance, mais on avance par cercle, en quelque sorte. C'est très étrange comme expérience de lecture et ça nous oblige à lâcher prise. Il y a un moment où on lâche prise et on se laisse transporter et tout est succession d'affects. C'est des petits effets, effets-réactions, si vous voulez. Hein. Presque plus que des émotions. C'est vraiment un petit mouvement infime produit quelque chose chez le personnage ou la figure, enfin le narrateur en tout cas. C'est toujours là, il y a un jeu extrêmement extrêmement présent, hein, donc il y a la voix de l'auteur qui est là, hein, ce jeu qui serait qui nous raconte quelque chose et qui réagit mais sans avoir le contrôle d'où il vient et où il va. Donc
est-ce que ça raconte quelque chose? Est-ce qu'il y a un rapport à une intrigue ou est-ce que c'est assez secondaire peut-être en comparaison avec la succession d'affects, la manière dont peut-être même la voix de l'écriture, plus que la voix de l'auteur encore, agit sur le texte lui-même, quoi.
On a presque l'impression d'une sorte d'autonomie du texte,
ouais,
sur lui-même. Hein, ça, c'est donc il y a une histoire, mais enfin, elle est quand même pas, c'est pas, on n'est pas dans une histoire à suspense.
On n'est pas tenu par le suspense.
Souvent, comme au théâtre d'ailleurs, on a quelquefois le dénouement qui arrive en prologue, donc. Donc on n'est pas dans cette idée d'une construction d'une narration qui raconterait une histoire. On n'est pas, c'est pas ce régime-là qui est intéressant en tout cas. Et il va même jouer avec les formes puisque dans la septologie, dans l'autre nom, à peu près donc à la page 297, hein, sur un, donc on est dans le deuxième tiers du roman. Tout d'un coup, on relit le même texte qu'à la première page. Alors, bon, on ne le voit pas forcément. Ça peut être une... il faut être quand même un peu en éveil pour remarquer, mais se dire, en fait, on lit exactement la même description. Et au bout d'une vingtaine de lignes, il y a une petite modification. Et en fait, c'est une sorte de la même histoire, mais en fait, c'est pas la même parce qu'il y a cette modification. Donc, c'est quand même pas une narration traditionnelle et qui laisse le lecteur en fait complètement libre de rêver, d'en faire ce qu'il veut, parce que ça fait pas tellement de sens. Pourquoi répéter la même scène?
Sauf à considérer ce dont vous vous méfiez au début de cette émission, Sylvain Briens, que pour lui, l'écriture, ce serait un endroit aussi pour la pensée. Et donc, pourquoi pas réfléchir au même et à la répétition dans l'existence? Pourquoi pas réfléchir à l'infini du retour, à la manière dont on avance non pas tout droit dans une chronologie de l'existence, mais par forme circulaire et en spirale? C'est peut-être le lieu, la matière littéraire, c'est peut-être un exercice pour, je sais pas quoi, exercer sa spiritualité, exercer sa pensée à Jon Fosse.
Alors, c'est possible, hein, on pourrait faire une
interprétation. Mais vous vous dites non.
Alors, je sais pas, je suis partagé, parce que j'ai un peu peur de plaquer des théories dans un texte qui ne met pas le lecteur dans cette position-là. La question de la répétition, on pourrait tout de suite mobiliser Kierkegaard, hein, le philosophe danois, qui a un très beau texte sur la répétition, et puis aller dans décortiquer aussi la remise en cause du langage.
Qui est très présente, on a l'impression, voilà, vous le disiez tout à l'heure aussi, Marianne Segol, est-ce que ça nous raconte pas l'incommunicabilité, ou au contraire la manière dont on essaye mais ça rate, le langage ça rate, enfin... Mais vous vous dites, c'est certainement pas, on va dire, une illustration de ce que Jon Fosse aurait compris de ses lectures théoriques d'il y a 25 ans.
En tout cas, c'est pas... Moi, je ne vois pas son œuvre romanesque des romans à thèse, comme des romans philosophiques. Ça n'empêche pas qu'on puisse en faire une lecture philosophique. Hein. C'est pas, mais en tout cas, c'est pas sans doute la seule proposition. Moi, je préfère le lire en fait comme une partition musicale. Pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement construit qui relève de la partition. Donc, bah, la coda, hein, là, on a ici la reprise. C'est quand même en musique, on reprend. Au sein d'une même pièce, on revient au début et puis justement dans la reprise, il y a une coda qui nous amène ailleurs. Donc il y a une structure presque symphonique dans ces romans qui est tout à fait fascinante. Un jeu sur la durée des silences. Tout à l'heure, Marianne l'évoquait, hein, le silence court, le silence long. En musique, on a bien des indications de durée de silence.
Mais alors justement, c'est ça qui m'intéresse. On a entendu dans la voix de Stanislas Roquette l'idée comme ça d'une grande litanie, d'un flot de mots, pas de ponctuation. Si on lit par exemple dans la publication chez POL, c'est des pages qui sont entièrement remplies. Quand tout à l'heure, on était dans « Dors mon petit enfant » aux éditions de l'Arche, et il y a trois petits mots, puis à la ligne, puis un silence. Est-ce que ce serait trop caricatural de dire son œuvre romanesque, c'est le flot de mots et le théâtre? C'est l'économie.
Jon Fosse dit lui-même que dans sa littérature, dans son roman, donc maintenant il se qualifie de poète, hein, aussi bien en théâtre qu'en tant que romancier, mais la répétition a la même valeur que le silence dans son théâtre. Et que c'est comme une histoire de mantra, vers quelque chose de presque religieux, en fait, de répétition jusqu'au silence, en fait, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose qui élève à un autre
donc
endroit.
Donc ce plein est trompeur, en réalité. Tout ce qu'on pourrait prendre comme étant le flot d'une langue ininterrompue, en réalité, ça, c'est presque la même chose que le fameux mot que je ne voudrais pas répéter en le déformant, qui est
le tougne.
Le tougne, qui serait ce silence rempli. Marianne Segol.
C'est comme ça que je l'interprète moi. Alors après, mais j'ai la sensation, ouais, que c'est ça.
On va revenir à cette question de paysage et à la langue, peut-être pour évoquer la traduction avec une question, une remarque envoyée par notre auditrice Caroline.
Bonjour le Book Club. Hey, comme on dirait en norvégien. Avant toute chose, j'aimerais vous parler des paysages de Norvège qui sont, tout comme l'écriture de Jon Fosse, à la fois fantastiques et âpres. Ce pays a traversé de longs siècles de pauvreté. C'est un pays au nord de l'Europe qui vit des hivers extrêmement froids, humides et sombres. Et toute cette beauté se ressent dans l'univers créé par cet écrivain Et c'est vraiment un univers à part, grandiose, écrit dans une langue qui, je crois, n'est parlée que par 10 ou 15% des Norvégiens, le néo-norvégien. D'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais féliciter tous ces traducteurs et ces éditeurs.
Merci beaucoup à notre auditrice Caroline de nous permettre de parler un peu plus longuement de cette langue. Marianne Segal, vous aviez dit tout à l'heure avoir traduit Jon Fosse. On évoque ici de nouveau ce néo-norvégien parlé par très peu de personnes sur place. Qu'est-ce que c'est comme expérience de traduction ?
C'est à la fois, moi c'est un honneur évidemment de le traduire. L'expérience, c'est d'être chez un auteur qui est tellement précis qu'on est porté par son univers, par cette langue si forte, si condensée, et puis par ce néo-norvégien, ce nunoche, et puis qui est aussi très lié à toutes les langues scandinaves, c'est-à-dire avec une structure qui est très difficile à transposer en français. On est par exemple, et ça c'est très très fort, je trouve, dans l'œuvre de Jon Fosse, chez des personnages qui sont traversés par des émotions et qui ont des émotions qui sont plus grandes qu'elles et qui savent pas comment les exprimer ou qui en tout cas sont hésitent sur la manière dont ils doivent les essayer tenter en fait d'en dire quelque chose. Ils disent pas une chose, ils tentent de dire quelque chose. Et c'est vrai que par exemple dans la traduction, on est aussi dans des formes des formes indéterminées. On est chez lui dans une langue très pauvre, avec très peu de vocabulaire, une intrigue très pauvre aussi, souvent avec des phrases qui commencent par « il y a »,« ça »,« c'est », qui pourraient être... par exemple, on peut dire il y a quelque chose qui me fait mal au lieu et en français on serait sujet de son émotion, c'est-à-dire j'ai mal.
Ouais.
Et en fait, le fait de devenir être objet de ses émotions et
d'être
non
passif,
sujet,
d'être traversé,
d'être traversé par quelque chose dont on n'arrive pas vraiment à exprimer, qu'on n'arrive pas à exprimer parce que c'est souvent trop grand, parce qu'il parle de l'amour absolu, du désespoir absolu, de toutes ces grandes émotions, ces grands sentiments qui nous traversent. Eh ben ça, quand on traduit dans une langue qui n'est pas structurée de la même manière,
il faut trouver cette façon,
alors qui ne simplifie pas parce que la forme indéterminée peut rendre aussi la langue assez naïve, assez en français, hein. Mais dans une langue qui structurellement est beaucoup plus sophistiquée qui est le français. Donc en fait, c'est cette langue, les langues scandinaves sont comme ça déjà dans ce rapport, mais le nunoche encore plus. Donc évidemment que lui joue avec la structure de sa langue. C'est son air de jeu, on va dire. Donc voilà, comment rendre ça ? Et c'est un travail extrêmement dur d'une certaine manière.
Oui, parce qu'au final, on vous voit presque à l'atelier, Marianne Segal, pas tant avec plein de matière, mais plutôt sur un bloc unique à devoir ciseler avec pas grand-chose pour retrouver l'immense vertige créé dans le néo-norvégien et dans la langue initiale. J'étais très étonnée d'entendre Caroline parler de la manière dont on retrouve la beauté des paysages, la Norvège, ce qu'on peut y voir dans les textes de Jon Fosse, Sylvain Briens, parce que moi, j'ai souvent fait l'expérience en le lisant, au contraire, d'une nudité, du pas de décor, du rien. Alors, bien sûr, j'ai pas du tout lu tout Jon Fosse, mais comment est-ce qu'on peut à la fois rendre grâce à ou commenter la remarque de Caroline sur ce point-là ?
Mais c'est la relation, je crois, entre une écriture de l'infiniment petit. On est vraiment dans les petites variations, c'est des petites choses qui avancent en plus à petits pas, hein, ça va pas vite. Donc on a des trajectoires très lentes, de choses presque infimes, et en même temps, ça nous parle de l'infiniment grand. Alors après, ce que le lecteur fait de cet infiniment grand, est-ce que cet infiniment grand, c'est les espaces infinis, c'est justement ce rapport à un territoire que l'on associe, je sais pas moi, au sublime, une expérience qui nous dépasse. Ça appartient au lecteur de le faire.
Finalement, c'est plus une projection de Caroline, notre auditrice, d'imaginer que ce serait cet infiniment grand, nécessairement la Norvège. Pas forcément. Ce que vous disiez tout à l'heure, s'il y a bateau, c'est un bateau imaginaire. S'il y a maison, c'est une maison imaginaire. Et s'il y a une situation, c'est une situation sans préalable. En tout cas, sans préalable énoncé.
Je dirais qu'il y a autant de paysages, dans l'œuvre de Fosse qu'il y a de lecteurs à se faire superciser de ce paysage. Donc Caroline, sa posture est complètement légitime.
Bien sûr.
Mais un autre lecteur va peut-être s'imaginer autre chose, projeter sur une autre surface. Alors la tentation est grande puisqu'il est norvégien, puisqu'on a quand même on a des représentations préexistantes. Hein. On n'aborde pas le théâtre de Jon, ou l'œuvre de Jon Fosse sans avoir un certain nombre d'images d'un imaginaire du Nord qui est là, mais finalement qui n'est pas explicitement suggéré dans son œuvre.
J'attrape un dernier mot dans la remarque de Caroline, c'est la question de la beauté. On a parlé beaucoup de l'amour absolu, des grandes émotions qui nous dépasseraient. Qu'est-ce qu'il fait de la beauté? Qu'est-ce que ça peut comme ça éclairer en vous pour un mot de la fin, Sylvain Briens ou Marianne Segol?
Le mot de la beauté, moi je dirais que c'est sur la manière... Alors déjà je reviens un tout petit peu à la nature, parce que j'ai l'impression que quand même le fond et la forme se rejoignent dans son écriture et que la vague, le ressac est quand même là, pas forcément dans l'image, mais dans la manière dont c'est écrit en fait, dans cette forme qui est... Et sur la beauté, moi, ce qui me touche particulièrement, alors c'est très très personnel.
C'est très bien, finissons là.
Mais c'est cette ouverture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ponctuation, donc on est toujours dans des sens ouverts, et tout ce qui est ouvert laisse place à tout ce qui est possible pour moi. Donc
vous voulez dire un dernier mot, Sylvain Briens?
Pour moi, c'est une beauté d'abord qui passe par une immense respiration. Avec Jon Fosse, on respire et on est bien. Et puis, c'est cette ouverture vers un espace infini, peu importe lequel. Moi, j'aimerais bien finir par une citation de « Je suis le vent ». « Je regarde au lointain, il n'y a rien à voir que la vaste mer. »
Vous citez d'ailleurs « Je suis le vent » dans un magnifique article, Sylvain Briens, où il est question comme ça de ne pas être alourdi. « Je ne suis pas alourdi. » Voilà, « Je suis le vent, je ne suis pas alourdi. » Voilà, j'ai été bouleversée. Eh bien, tout le monde lit Jon Fosse. Voilà, chacun commencera par le bout qu'il voudra. Un grand merci à vous deux, Marianne Segol et Sylvain Briens. On mettra l'ensemble des références, dont un livre à paraître bientôt, Sylvain Briens,
oui.
Sur le site internet du Book Club, franceculture.fr.
Merci.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Il est toujours 15h50 dans le Book Club et à cette heure-ci, on reçoit de la visite le mercredi. C'est vous, Mathilde Wagman. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Lecture jeunesse, pardon, j'en perds ma voix, s'intéresse aux livres à destination des lecteurs les plus jeunes. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une disparition dans l'univers justement de cette lecture jeunesse, littérature jeunesse.
Oui, absolument Marie. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un problème préoccupant qui concerne ce domaine. L'autre jour, un ami qui écoute le Book Club...
C'est sympa.
Il sait que j'y tiens ce moment de conversation avec vous chaque mercredi et il m'a écrit. Son fils de 4 ans et demi lui réclame des histoires avec des personnages de méchants. Des personnages vraiment méchants, précisait-il. Pas des loups végétariens ou des monstres qui, dans le fond, cherchent un ami. Non. Des vrais méchants, des méchants féroces qui font peur, des méchants cruels, sans pitié, sans reproche. Cet ami a été avec son fils en librairie, ils ont demandé conseil et personne n'a pu leur trouver un album récent avec un personnage de la sorte. Raison pour laquelle il s'est tourné vers moi, je pourrais peut-être lui conseiller un livre. Soucieuse d'être à la hauteur de la confiance dont il me témoignait par cette demande, je me suis donc mise en quête à mon tour, cherchant un livre pour cette tranche d'âge, dont 4, 5, 6 ans, disons. Bien évidemment, je ne peux pas prétendre avoir tout lu et j'espère que la conclusion que je tire de ce parcours est erronée. Merci d'avance, chers auditeurs, chères auditrices, de nous le signaler si c'est le cas. Mais parmi les livres que j'ai lus depuis la rentrée, force est de noter que j'arrive au même constat, nulle trace de terribles méchants dans les parutions récentes. D'où cette question. La cruauté aurait-elle déserté la littérature jeunesse?
Bon, alors si vous aviez raison, Mathilde Wagman, comment est-ce qu'on peut expliquer ça?
Oui, c'est bien la question. Est-ce que cette absence de méchants est un signe des temps? Si oui, de quoi ce serait le signe? Est-ce que les auteurs contemporains seraient trop soucieux de ne pas effrayer les jeunes lecteurs? Dans une époque particulièrement anxiogène comme la nôtre, cherchons-nous à rassurer les enfants, à les préserver du mal dans les nourritures littéraires qu'on leur propose? Avons-nous trop peur de les effrayer? Si c'était le cas, ce serait, je crois, en tout cas une très mauvaise nouvelle. On dit que Georges Cholet, le créateur de Fantômette, à qui on demandait s'il y avait des règles pour pour créer de bonnes histoires pour jeunes lecteurs, répondit un jour que la première d'entre elles était qu'y figurent des bons et des méchants. L'idée que l'on peut mesurer la qualité d'une histoire à la qualité de son vilain est aussi une théorie que l'on prête à Hitchcock, elle me paraît aussi assez juste. Le constat n'est en tout cas pas nouveau. Écoutez ce que Tommy Ungerer, l'auteur des Trois Brigands, disait déjà dans un entretien qu'il accordait en 2012 à France Culture.
Je suis vraiment toujours été en forte contradiction avec les pédagogues qui disent qu'il ne faut pas traumatiser les enfants, etc. Alors que moi, dans mon livre, il y a toujours des éléments de peur. Mais les enfants, en fin de compte, n'ont jamais peur. Même dans les Trois Brigands, tous les gens foutent le camp, mais quand les Trois Brigands tombent sur la petite fille, là, dans son truc, elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur. On sous-estime complètement les enfants.
Il a raison, Tommy Ungerer. Alors, ne pas sous-estimer les enfants, ça peut être un bon point de départ, mais dans les parutions que vous avez lues depuis la rentrée, je peux pas vous croire, Mathilde. Il y a vraiment aucun album qui met en scène des méchants.
Non, c'est pas tout à fait vrai, je le reconnais. Je suis certes tombée, par exemple, sur un album qui comporte pas moins de 20 méchants. Le livre s'appelle « L'enfance des méchants, des vilaines et des affreux ». Il est signé Sébastien Pérez pour les textes et Benjamin Lacombe pour les dessins et il a paru à l'École des loisirs. Il s'agit du portrait de 20 personnages, de Dracula au grand méchant loup, de la fée maléfique au capitaine Crochet. Le livre a certes pour intérêt de présenter des figures issues de traditions variées, mais l'approche est décevante. Il s'agit pour chacun des personnages d'imaginer leur enfance. Ainsi, nous est-il expliqué que le grand méchant loup Louveteau ne mangeait jamais à sa faim car sa mère avait eu trop de petits, ou que le père de la reine de cœur cédait à tous ses caprices quand elle était enfant, raison pour laquelle elle n'a jamais su gérer la frustration. Mais ce déterminisme psychologique affadit la méchanceté des personnages. On veut de la méchanceté gratuite, sans raison, sans justification.
Bon alors, si on doit quand même rendre grâce à la question de votre ami et lui conseiller quelque chose, notamment à son fils, qu'est-ce qu'on fait ?
Oui, on va pas se quitter sur un constat d'échec. Puisque nous n'avons pas trouvé notre bonheur dans les parutions récentes, on conseillera d'aller puiser dans le vaste patrimoine littéraire, à commencer bien entendu par celui offert par les contes, réserve de personnages cruels en tout genre, ogres, géants, monstres ou sorcières. On peut par exemple aller lire les contes de Charles Perrault, dont la Bibliothèque nationale de France a fait paraître il y a quelques années une magnifique édition augmentée des illustrations de Gustave Doré, ou encore les contes des frères Grimm, dont une nouvelle traduction paraîtra début novembre chez POL. Ou bien encore, pour ce qui est d'un album illustré, ce conte issu de la tradition russe, Baba Yaga, réédité par les éditions Memo en 2010. C'est l'histoire d'une petite fille qui doit subir les coups de sa marâtre. Cette dernière l'envoie chez la Baba Yaga Carabosse Jambe d'Os, qui se réjouit de faire de la petite fille son repas. « Va me chauffer les bains chauds, très chauds, lave ma nièce et tâche de bien lui ramollir les os. Je vais me la frire ce midi. » dit la Baba Yaga à sa servante. Il faut voir la petite fille mettre l'oreille au sol pour sentir la terre trembler et entendre la sorcière approcher. Vraie scène de suspense et de terreur mêlée. Miam, miam, miam.
Ouais, je peux vous dire que c'est un grand hit à la maison, ce Baba Yaga magnifique aux éditions Memo. Merci beaucoup, Mathilde Wagman. On pourra réécouter Lecture Jeunesse sur franceculture.fr. C'est l'heure de jouer. Le grand jeu des pages musicales, ça consiste en quoi ? Ça consiste, vous êtes en train de lire un livre, n'importe lequel, n'importe quelle époque. Vous y trouvez l'évocation, même infime, d'un air musical. Vous repérez l'extrait. Vous nous l'envoyez, par exemple, à l'adresse lebookclub@radiofrance.com ou via l'Instagram de la communauté du Book Club. Et nous avons tout un tas de trouvailles que nous lisons chaque jour. La trouvaille du jour, on la doit à l'auditeur Jean-Marie. Il nous a écrit par mail. C'est un extrait de Suite inoubliable, paru en 2023 chez Gallimard, d'Akira Mizubayashi. Le prélude s'accélérant touche à sa fin. Lorsque l'archet se détache de l'instrument après avoir appuyé sur la quatrième corde, un silence frémissant revient. Tout à l'heure, Ken m'a parlé seulement du prélude, mais maintenant, emporté par la douce puissance du torrent musical, il poursuit son exploration de la première suite, après une pause d'à peine quelques secondes. 20 minutes d'éblouissement qui me ramènent à mes années d'apprentissage dans diverses villes européennes, inondées de musique de chambre. Je me sens devenir un point minuscule dans l'immensité d'une cathédrale semblable à Notre-Dame de Paris, où il y a longtemps, luthière en herbe, j'ai éprouvé cette même sensation étrange lors d'un concert d'orgue un samedi matin.
Ken arrive, déjà, à la fin de la gigue. Les yeux fermés, la tête penchée, je suis une pure oreille. Il ralentit, il fait vibrer la corde de sol, je relève la tête, il m'envoie un ineffable sourire d'enchantement et de tendresse. Je lui réponds en lui envoyant un regard d'admiration. Je n'ai pas deux mots devant une telle beauté, Ken. Au son, c'était Raphaël Rousseau. Aujourd'hui, à la réalisation, Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Valentin Rémy, Marianne Chassor, Didier Pinault, Jeanna Léos, Mathilde Wagman, Léa Weiss-Grus et Oriane Delacroix. Vous pouvez réécouter le Book Club sur franceculture.fr et pourquoi pas vous abonner au podcast via l'application Radio France. Très bel après-midi sur France Culture.